Bon, on vient d'entendre la sous-ministre de la Santé nous faire le portrait qui résume un peu les choix déchirants, même pas difficiles, déchirants, qu'on doit faire quand on dit ben, telle chirurgie, on l'annule pour tel patient, on allonge la liste, 140 000 cas en attente au Québec. Puis j'ai plein d'auditeurs, je regardais ça pendant la pause, qui lèvent la main en disant « mon mari attend, j'attends une chirurgie ». Et ça veut dire que c'est pas demain la veille, d'une part, qu'on va pouvoir retrouver une cadence normale, puis encore moins faire le rattrapage. Arrive cette période où on regarde les chiffres et il y a une inquiétude, bien sûr, compte tenu d'un réseau qui est fragile, c'est moins qu'on puisse dire, mais surtout un réseau où le personnel est fatigué, où il manque de monde, pas d'équipement, pas de lit, mais vraiment de personnel pour soigner les gens. Puis ce matin, je me suis dit, après le volet des décisions gouvernementales, allons sur le terrain avec Dr. François Marquis, intensiviste et chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr. Marquis, bonjour.
Bonjour.
Je regardais ce matin, je reprends le Devoir qui dit que Maisonneuve-Rosemont, là, prenons votre hôpital, là, est dans un état quasi squelettique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, je trouve ça un drôle de terme, là, mais bon, on sait que il y a des défis majeurs au niveau de la bâtisse, là. L'hôpital est fini, là. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pour ce qui est du personnel, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que on a un manque important de personnel au niveau des inhalothérapeutes, des infirmières, et ça fait en sorte qu'il y a des lits qui peuvent pas être utilisés pour répondre là aux besoins de la population, autant COVID que non-COVID. Et ça, c'est mathématique. On peut pas mettre des patients dans des lits s'il n'y a personne pour s'occuper d'eux autres de façon sécuritaire.
Mais vous savez que pour beaucoup de gens, c'est difficile à comprendre, là. Quand on se fait dire on a les lits, on a l'équipement, et ce qui manque pour soigner les gens, c'est le personnel.
Oui, c'est difficile à comprendre pour moi aussi. Maintenant, faut décortiquer cette réalité-là. D'une part, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Il y a des gens qui sont en dépistage parce qu'ils ont des familles, puis il y a des enfants qui sont dépistés, etc. Il y a des gens qui ont changé de carrière. Il y a des gens qui ont pris leur retraite. Il y a des gens qui ont changé d'hôpitaux. Il y a des gens qui travaillent dans les agences. Fait qu'une fois qu'on a tout fait ça, considérant qu'une infirmière peut aller travailler dans n'importe quel hôpital de la région de Montréal, puis qu'à partir de là, c'est juste qui offre la meilleure qualité de vie puis les meilleures conditions de travail, bien là, rapidement, ce qui arrive, c'est que si des hôpitaux donnent des temps supplémentaires plus que dans un autre hôpital parce qu'ils ont une réalité qui desserve une population extrêmement malade qui a besoin extrêmement d'aide, bien tranquillement, il y a une migration qui se fait. Celles qui restent en arrière sont confrontées à de plus en plus de travail, ce qui amène les gens à partir. Entre autres, c'est ce qu'on a vécu avec les inhalothérapeutes. Et ça devient extrêmement difficile d'être attractif parce que ben, les conditions doivent être les mêmes. C'est que je peux pas. Comment un hôpital peut devenir attractif quand il ne peut pas développer vraiment là, de donner quelque chose qu'un autre hôpital donne? Là. C'est ça le problème. C'est que les hôpitaux qui sont bien garnis sont de mieux en mieux garnis parce que les gens vont vers eux. Les hôpitaux qui sont mal garnis, qui sont dégarnis, deviennent de plus en plus dégarnis. Et nous, on a une population qui a besoin de beaucoup d'aide, ça veut dire beaucoup de travail, parce qu'on a été touché fortement à la première vague, on est touché fortement à la deuxième, mais les marques laissées par la première vague sont profondes, là.
Comment je fais, là? Puis c'est vous le docteur, là, puis c'est vous qui êtes le chef des services des soins intensifs. Comment je fais pour attirer un inhalothérapeute ou une infirmière à Maisonneuve-Rosemont?
Ben, il faut pas en attirer une. Il faut en attirer plusieurs d'un coup.
Okay.
Puis une des façons de le faire, hein, c'est de dire, ben, venez en groupe. Souvent, les gens ont peur d'un nouveau milieu, qui viennent en amis, là, qui viennent deux, trois qui se connaissent, là, puis on va les intégrer ensemble, on va les maintenir ensemble. L'autre chose aussi, c'est de dire, ben regardez, vous allez venir travailler avec une équipe qui est quand même vraiment le fun. Puis ça, c'est une réalité. Je connais bien mon équipe. C'est une équipe qui est dynamique. C'est certain que les gens vont travailler à Maisonneuve, là, on se le cache pas, là. Mais l'ambiance est bonne, les gens sont sympathiques et c'est une belle famille. À partir de là, venez en paquet 2 puis en paquet 3, puis on va vous arranger quelque chose.
Mais il y a des auditeurs qui sont plus raides que vous, là, qui disent si on est capable par décret d'annuler des vacances. Dans le réseau, si on est capable d'imposer un couvre-feu, est-ce qu'on ne devrait pas conscrire tout ce qui est dynalo, infirmière dans le privé, les mobiliser vers les hôpitaux où ça presse?
Bien, ça, c'est une option qui est absolument possible. C'est certain que présentement, il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans des agences. Ces agences-là, bien, ils donnent les gens qui veulent aux hôpitaux qui veulent pour les chiffres qu'ils veulent. Donc, ils n'ont pas... Tu sais, par exemple, là, une compagnie privée d'ambulanciers ou quelque chose comme ça doit offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent pas dire, ben moi, ma compagnie, nos gardes de sécurité, ils fournissent des gens 24 heures sur 24 pour les besoins de l'hôpital. Ils peuvent pas dire, ah, de nuit, nous, on va fournir personne parce que ça nous tente pas. Malheureusement, les conditions dans les agences, c'est que les gens peuvent choisir leur cadre de travail, ils peuvent choisir de pas faire de fin de semaine. Le problème qu'on a dans un hôpital, c'est que si mes quarts de jour sont remplis au point que je pourrais ouvrir tous mes lits dans l'hôpital, ça serait génial, mais s'il n'y a personne de soir ou de nuit, les gens qui planifient les horaires, c'est le chaînon le plus faible qui décide. Donc, s'il n'y a pas assez de gens qui travaillent de soir et de nuit, ça va limiter l'ouverture des lits de jour. Et est-ce qu'on pourrait demander aux agences de fournir également à tous les hôpitaux, sur tous les quarts de travail, de la main-d'œuvre? Mais c'est une décision gouvernementale. On peut pas, présentement, un hôpital peut pas faire ça. Mais c'est certain que d'avoir des gens d'agence qui changent à tous les jours, c'est extrêmement difficile pour qu'ils deviennent ultra bons, là, parce qu'ils doivent s'adapter à un nouvel hôpital à tous les jours, à des nouveaux soins intensifs. Puis on sait que les soins intensifs, ça prend un certain temps à comprendre comment ça fonctionne, puis comprendre un peu la philosophie d'un hôpital, puis comment ça roule dans un hôpital, changer à tous les jours, c'est difficile pour les travailleurs aussi. Puis quand ils ont le choix, ben c'est certain qu'ils vont aller vers des horaires qui sont avantageux ou des hôpitaux qui sont avantageux. C'est comme ça, là.
OK, mais docteur Marquis, en résumé, là, c'est un problème d'organisation ou désorganisation chronique du travail qu'on accumule, qu'on voyait peut-être moins dans le passé, puis qui nous saute d'en face en période de crise.
Bien, effectivement, je pense que c'est le temps pour repenser l'organisation du travail et la place des agences et de leur impact dans notre système de santé, parce que je pense que ça pourrait être utilisé mieux, ces travailleurs-là pourraient être utilisés de façon plus efficiente pour tout le système, là.
Merci beaucoup, Dr. Marquis.
Bien, merci, au revoir.
Au revoir, Dr. François Marquis. Et chef de service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.